France Culture.
Question d'islam par Ghalib Benchir. Aujourd'hui, nous parlons du dialogue, de la rencontre, d'œuvrer ensemble entre bouddhistes et musulmans pour un bien commun, pour un intérêt général, pour asseoir les fondations d'une humanité fraternelle, solidaire, et pourquoi pas prospère pour tous et salutaire pour tous. J'ai plaisir pour aborder ce sujet et le creuser davantage de recevoir Sylvie Bourgoin. Sylvie Bourgoin, bonjour.
Bonjour.
C'est vraiment une grande joie de vous accueillir pour nous parler de ce Sangha. Et vous nous expliquerez davantage le terme qui veut dire une communauté commune.
Tout à fait.
Partagée en tout cas. Vous êtes romancière, essayiste, vous êtes fondatrice du pèlerinage Tanoria en Crète et vous présidez aussi l'association du peintre Jean-Paul Arrivel, qui se trouve être aussi votre cousin. Et vous connaissez très bien les deux traditions, la tradition du Bouddha et la tradition prophétique mahométane ou mohammadienne, comme on dit, et vous appelez de vos voeux à cette rencontre fructueuse entre bouddhistes et musulmans. Parce que vous êtes une femme éprise des causes justes de par le monde et vous aimez votre semblable, votre prochain et votre lointain. C'est ainsi que vous avez eu cette idée pour cet appel ?
Oui, j'ai eu en effet, après ma conversion à l'islam, le 31 juillet 2013, l'opportunité et la grande chance d'intégrer une communauté bouddhiste à Bangkok, donc dans l'ancienne tradition que l'on appelle le Theravada, auprès de nonnes qui m'ont offert en 2019, juste avant la crise de la Covid, l'hospitalité pendant 15 nuits. J'ai donc été initiée à la méditation vipassana et je n'ai trouvé évidemment aucune contradiction, aucune contrariété à opposer les deux confessions, celle des musulmans et celle des bouddhistes. Au contraire, j'ai trouvé que par la pratique de l'ascèse, ces deux confessions, si l'on ne parle pas de religion pour le bouddhisme, pouvaient se rapprocher, pouvaient s'apporter, pouvaient se comprendre et pouvaient se protéger. Puis, j'ai continué à cheminer dans cette voie de bienveillance, d'amour du prochain que souhaite aussi évidemment et revendique évidemment l'islam. Et j'ai été extrêmement marquée en 2019 lors de mon hajj au pèlerinage à la Mecque par la perte d'un jeune Algérien, Mohamed. Nous étions partis donc avec le groupe de la mosquée de Paris faire notre hajj et malheureusement nous avons perdu un jeune homme de 24 ans, un jeune Algérien que nous avons mis en bière à notre arrivée à Paris quelques semaines avant le déclenchement de la pandémie. Tellement marqué par ce cancer du poumon et ce décès prématuré, malgré les prières, malgré les chants, malgré les tawafs que nous avions fait avec le groupe de la mosquée de Paris, que...
Le tawaf, pour nos amis auditeurs, sont les circumambulations ou ces précessions qui sont des processions circulaires autour de la Kaaba.
Exactement. Voilà. Que j'ai décidé de créer ce pèlerinage à Anoia, en Crète, pour réunir là encore le plus de confessions possibles, de manière à être le plus œcuméniste possible et réussir à adoucir les fins de vie des jeunes gens malheureusement touchés par les cancers et qui parfois ne peuvent pas s'en sortir malgré la chimiothérapie et parfois un acharnement thérapeutique.
Alors vous avez cette approche que vous qualifiez d'humaniste des deux prophètes. Donc vous considérez, en dépit du fait que la voie du Bouddha n'est pas unanimement considérée comme une religion, même pour certains, ce n'est pas une confession, mais une philosophie de vie, mais admettons le fait que ce soit une approche confessionnelle, puis la tradition religieuse islamique, et l'un et l'autre des deux figures emblématiques et fondatrices sont des êtres ayant le souci de l'autre, de l'humain, et donc leur enseignement est humaniste.
Tout à fait. Je crois que le mot humaniste est en effet très bien choisi et judicieux, même si dans notre culture occidentale, il nous porte vers le XVIe siècle, hein, l'humanisme de Montaigne, de Rabelais, une culture généraliste, un savoir global, mais que nous retrouvons dans les deux prophéties qui, évidemment, sont bienveillantes, compassionnelles, mais qui surtout peuvent se retrouver, encore une fois, se rapprocher dans un nouveau sangha, une nouvelle paroisse, une nouvelle communauté autour de la 16. Pourquoi ? Parce que ces deux communautés qui, comme vous l'avez dit, tendent vers le bien d'autrui, ont en commun le goût du jeûne, l'absence de consommation d'alcool, de produits toxiques, une modération dans les plaisirs, un contrôle de la sexualité et évidemment le non-droit de tuer et le non-droit de voler. Donc je crois que à partir de cet humanisme de ces deux figures qui sont appelés par Dieu, appelés par l'absence de souffrance et appelés vers la bienveillance, on peut en effet, particulièrement en cas de défaillance, que ce soit la guerre à Gaza, que ce soit les tremblements de terre en Turquie ou au Maroc, et pour les bouddhistes, que ce soit la difficile succession du Dalai Lama à 88 ans, ou des conquêtes, des invasions très agressives comme la Chine au Tibet, trouver une voie du milieu, un compromis, une entente cordiale, eh bien pour se protéger, se rapprocher, se comprendre, et essayer de cheminer ensemble vers cette quête du bonheur et cette suppression de la souffrance.
Et surtout, et je souhaite que nous commencions par cela, voir les uns et les autres, d'abord chez soi, en soi, les manquements à cet enseignement-là qui peut advenir parce que le comportement des hommes est ce qu'il est et les êtres humains, parfois avec excès, deviennent ce qu'on appelle communément des ultras. Et donc il faut savoir modérer cela, d'abord le dénoncer dans sa famille propre, avant de considérer que c'est autrui qui est toujours à l'origine du chaos.
Tout à fait. Le rapprochement, le doublement en fait, hein, des effets de ces deux prophéties ne peut être que bénéfique. Nous multiplions notre voie vers le bonheur, considérant que la vie ascétique, les bienfaits de la vie ascétique, tous les musulmans attendent le mois sacré de Ramadan, le jeûne dans ce rapprochement à Dieu, dans ce dhikr, dans cette soumission et dans ce rapprochement, oui, au divin.
Et le dhikr étant une commémoration, un rappel, le fait de rappeler et se remémorer le nom de Dieu. Je le dis encore une fois pour nos amis auditeurs.
Tout à fait. Et les bouddhistes qui, par la pratique du zen, par la méditation de zazen, qui savent souffler, comme la tradition soufli, par exemple, de la Nakhbandiya à Afshana en Ouzbékistan, qui savent souffler, qui savent prendre le temps, aller vers l'impermanence des choses, un changement perpétuel, le non-soi aussi pour éviter une forme trop égoïste ou égocentriste de la vie. Je crois que ces deux confessions ont en commun de nous apporter beaucoup de bien-être personnel, beaucoup de bonheur même par les bienfaits de la vie ascétique et cette relation directe que nous avons avec Dieu que nous permet par le mot ayat l'islam d'avoir de recevoir le Coran comme un commandement, comme un ordre, presque comme un miracle, une preuve de Dieu, et nous soulage de beaucoup de peines.
Et les ayats, encore une fois, sont les signes à la fois dans la création, dans l'univers, les traces du Créateur, pour ceux qui croient qu'il y a un artisan premier, et ce sont les versets coraniques. Et il se trouve que le livre révélé renvoie au livre univers, et il y a une correspondance, une bijection, auraient dit les mathématiciens, ou un isomorphisme entre les versets du livre révélé et les traces de la création et de ses splendeurs dans le livre univers. Alors les soufis, les mystiques renvoient à un troisième livre qui est le livre intérieur et celui de la méditation sur l'âme en tant que telle, et cette introspection est aussi omniprésente dans l'enseignement bouddhique.
Tout à fait. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, Raleb, en début d'émission, vous souhaitiez, en effet, ou vous pensiez que ce rapprochement vers un nouveau sangha, une nouvelle paroisse, une nouvelle communauté possible entre ces deux religions, philosophies ou confessions, me permet de dire aussi que ça me permet d'être... Alors, le mot est galvaudé si on dit réforme, parce que là, comme l'humanisme, on se reporte à la réforme protestante de Luther et Calvin, mais pourquoi ne pas parler d'impermanence religieuse ou d'interconnexion religieuse qui nous permet une forme de modernité. Alors, nous en avons parlé dans les vertus de la vie ascétique, dans les bienfaits que peuvent nous apporter le mode de vie japonais, par exemple, ou cette recherche du bonheur quand enseigne à tour de livre le Dalai Lama, mais le fait de partager, en fait, permet, je crois, une ouverture. Par exemple, en 2019, lorsque j'ai commencé cette retraite à Bangkok, dans le monastère du Tehavada, il était absolument impossible de tenir un stylo, de lire ou d'écrire. Et aujourd'hui, je suis reçue au Laos par des amis dans une communauté bouddhiste aussi de la même obédience, Tehavada, et on m'a donné la possibilité de traduire le Dhammapada, les textes sacrés du Bouddha, de l'anglais vers le français. Donc, on voit que même s'il y a des relations très strictes ou des règles très strictes dans certains monastères au Vietnam encore où la mixité n'existe pas et pourtant il faudrait que qu'elle fût là pour que nous soyons tout à fait dans le bonheur recherché, mais je crois que cette joie que nous attendons tous les musulmans pour le mois sacré de Ramadan, eh bien, les bouddhistes la partagent lorsqu'ils vont se préparer le soir pour participer à leur session de méditation.
Et là aussi, vous dites que pour l'un, en l'occurrence le prophète de l'islam, Mohammed, il y a eu une révélation, pour l'autre, pour le Bouddha, il y a une illumination éveillée. Et on peut trouver dans ce qui est une révélation et qui viendrait de l'extérieur, c'est une descente, parfois pour utiliser le terme approprié, une inspiration aussi, alors que pour Bouddha, c'est une illumination qui viendrait de l'intérieur. Y a-t-il des similitudes, des ressemblances, en tout cas au niveau de l'impact qu'auraient l'un et l'autre en faisant signe aux hommes ?
Vous avez parlé d'humanisme tout à fait à juste titre. En effet, dans l'islam, la quête du savoir, et même de dire il faut chercher le savoir jusqu'en Chine, ce qui justifie donc, encore une fois, cette pratique du Bouddha. Donc c'est ce...
Pardon, chère Sylvie et Bourgoin, on n'y pense pas parfois. Le fait d'aller chercher le savoir, fût-ce en Chine, implique deux choses. D'abord, qu'il faut entreprendre tous les voyages les plus dangereux, les plus périlleux. Et l'idée de Chine, c'était pour l'époque, c'était aux confins de la terre connue. Mais le plus important aussi, c'est que le savoir à Médine n'était pas autosuffisant. Et c'est qu'on n'allait pas se contenter d'une sagesse ou d'un enseignement ou d'une connaissance immédiate. Et donc, il faut avoir présent à l'esprit qu'on peut trouver un enseignement et une sagesse ailleurs.
Donc, le Bouddha, lui, dans son éveil, cherche une voie de libération, une voie donc pour atteindre le nirvana. Mais rien, il n'y a aucune contradiction dans les deux pratiques. Elles ne s'affrontent pas, elles doivent au contraire travailler en osmose. Elles doivent travailler en symbiose pour apporter encore peut-être plus de bonheur et une recherche d'absence de cessation de la souffrance. Et pourquoi ne pas s'accoupler ? Nous avons tant à apprendre l'une de l'autre. Les musulmans pratique zazen, par exemple, la méditation soufie viendra s'ajouter à la méditation zazen. Rien ne les contredit et rien ne les oppose. Au contraire, elles se renforceront en se rapprochant.
Sûrement les apaiser est telle une propédeutique ou une approche par étapes, parce que d'aucuns, peut-être... C'est moi qui suis sévère en ajoutant le terme, fragile d'esprit, craindrait un syncrétisme ou un relativisme ou un confusionnisme. Donc, au lieu de voir une richesse et une complémentarité, d'aucuns préféreraient se recroqueviller un peu sur leur certitude. Alors, que diriez-vous et quelle approche préconisez-vous pour qu'il soit apaisé ?
Eh bien, je crois que on peut aller vers une voie au démarrage, au début de ce livre, vers la simplification. C'est une voie peut-être plus simple parce que aujourd'hui nous assistons à une parcellisation des écoles bouddhistes. Il y a quand l'école du Theravada, nous en avons parlé, qui vient de Sri Lanka et que l'on retrouve en Thaïlande, qui est l'école des anciens, le Mahayana, dit le grand véhicule que l'on retrouve au Vietnam, au Japon, le Vajrayana, qui vient du Tibet, qui est le bouddhisme tibétain, et au Japon lui-même, quantité d'écoles, Soto, la Terre pure, l'école du diamant. Et cette parcellisation peut complexifier à telle enseigne que le bouddhisme pourrait devenir, ce que je disais au démarrage de ce livre, ce que l'on dit anatta ou anicca, l'impermanence, une interconnexion. C'est-à-dire qu'on serait comme relié uniquement par quelque chose de virtuel, parce que les écoles sont tellement parcellisées, tellement atomisées, que l'on peut avoir des difficultés à les comprendre. D'où le fait de ce que vous disiez à juste titre, de voir essentiellement dans le Bouddha une illumination, un éveil, la recherche ultime de la délivrance par la libération du nirvana, et cette possibilité d'être altruiste, d'aller vers le bien, la bienveillance, d'aller vers une voie compassionnelle et surtout d'aller vers une voie d'entraide. Lorsque nous sommes en une énorme tragédie comme celle de Gaza ou dans des catastrophes naturelles comme les tremblements de terre, eh bien, nous avons grand besoin de soutien, grand besoin de, comment dit-on, d'entraide. Et là, les bouddhistes peuvent porter une sorte de secours moral, de réconfort lorsque les tragédies sont trop grandes ou atteignent des points de non-retour par leur libération de la souffrance.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons du dialogue entre bouddhistes et musulmans afin d'œuvrer ensemble pour alléger les souffrances d'autrui et conjuguer les efforts pour un avenir meilleur et radieux. Et ces deux traditions religieuses, philosophiques, ayant le souci de l'homme, quand elles sont comprises et bien comprises, doivent avoir ce résultat d'une communauté de destin, une paroisse, un sangha, dites-vous, chère Sylvie Bourgoin, fondatrice du pèlerinage d'Anoia en Crète, parce que vous avez été touchée par le sort de ces adolescents qui subissent à la fois un acharnement thérapeutique et aussi des chimiothérapies avec les effets secondaires terribles qui sont excessifs pour ces jeunes adolescents. Et c'est cette compassion qui vous a amené à fonder ce pèlerinage. Et vous êtes aussi présidente de l'association Jean-Paul Larivelle, le peintre, et qui se trouve être votre cousin. Pour cette deuxième partie de l'émission, nous essayons ensemble de lever une difficulté majeure, surtout, je les ai qualifiés tout à l'heure, peut-être que je n'aurais pas dû, de fragiles d'esprit, ce qui, du côté des musulmans cette fois-ci, voit que dans la négation de Dieu ou l'hypothèse d'un non-Dieu est une difficulté majeure insurmontable, alors que, me semble-t-il, si on devait résumer l'enseignement de la révélation coranique, c'est « crois en Dieu et sois droit ». On peut mettre de côté la croyance en Dieu, et ça concerne l'intimité de conscience de chacun. En revanche, la droiture, l'éthique, le comportement juste, ça, les deux traditions en parlent et insistent. Et donc voilà un terrain d'entente.
Tout à fait. Et j'ai un énorme plaisir à écouter vos propos, car je sens beaucoup de sérénité dans ce que vous dites. Et en effet, la droiture de l'islam, de chercher, comme dit la fatia, le droit chemin, peut être une voie de révélation et apporter ce bonheur. Cette voie sur le chemin, cette voie de la droiture, de la vertu, du droit chemin, comme le dit la fatiha, l'ouverture du Coran, peut être elle-même une voie vers le bonheur, d'apporter un apaisement de l'âme, la certitude que nous sommes guidés par Dieu et nous sommes heureux ensemble. Et pourquoi ne pas, en effet, donner cette énorme chance d'ajouter ces bienfaits de la vie ascétique en rapprochant les musulmans et les bouddhistes.
Alors, d'une manière concrète, et quand vous avez dit que vous allez en parler un peu plus tard de l'itinéraire et puis du format même de ce pèlerinage, et partant de l'idée que l'une et l'autre des deux traditions ont ce souci d'être dans une veine et dans une approche compassionnelle, et le fait d'alléger les souffrances et la détresse d'autrui, vous pouvez, si vous voulez, nous en parler dès maintenant.
pour copier le grand pèlerinage, le Hajj, ou le petit pèlerinage de la Oumma, très modestement. J'ai suivi donc le même schéma que l'illustre pèlerinage à la Mecque. Donc le pèlerinage d'Anoya offre deux possibilités. Un grand pèlerinage où il faudrait idéalement se rendre lors du mois sacré de Ramadan à Boukhara, en Ouzbékistan, parce que la ville offre la possibilité très simple de réaliser des miracles et auprès du prophète Job. Évidemment, c'est là où se trouve le lieu de naissance à Afshana du très célèbre médecin arabe, auteur du canon de la médecine.
Avicenne et persan, pardon. Il s'exprimait en arabe et en persan, mais on va lui rendre son ethnie qui était plutôt persane.
Ibn Sina.
Ibn Sina.
Pour le dire en arabe. Donc, de résider dans cette ville sainte de Boukhara, ça c'est pendant le mois sacré de Ramadan, ça c'est le grand pèlerinage, puis de se rendre donc à Anoya, se rendre à la grotte de Stendoni, qui est dans le village de Zoniana, faire cette marche à pied, et là, c'est là où nous avons déposé...
Nous sommes sur l'île de Crète, dans tout
Exactement.
Ça...
Exactement. C'est là où nous avons déposé les quatre personnes qui nous ont été confiées. Je ne parle pas d'âme puisque les bouddhistes ne parlent pas d'âme. Donc les quatre personnes, les défuntes, donc Manon, dont j'ai parlé tout à l'heure, Mohamed, un célèbre réalisateur franco-irakien, Amer Alwan, et le frère du producteur du film, à sa demande. Donc nous les avons déposé dans cette grotte, confié aux imams, confié aux prêtres orthodoxes, confié aux moines bouddhistes de Laos. Alors je vais nommer deux nonnes particulièrement qui se sont manifestées par leur dévouement et leur hospitalité inouïe. Nous prenons des leçons de vie à les regarder, ces nonnes Bud et nonnes Gui. Et le moine qui m'a beaucoup aidé, c'est le moine Seta Chantavong et le moine Kola, donc dans une communauté bouddhiste au Laos, ainsi évidemment que les imams de la mosquée de Paris. Puis, lorsque nous avons fini cette descente vers la grotte, nous remontons dans le village d'Anoya, où quatre églises nous ouvrent les portes si nous souhaitons entrer dans les églises. Puis, nous recommandons d'opérer l'ascension du mont Ida, qui siège donc sur cette île de Crète, en mémoire et en élévation spirituelle pour protéger donc ces martyrs des quatre personnes qui nous ont été confiées et qui sont décédées prématurément dans des souffrances terribles.
Là, ce que vous nous dites, c'est que cet appel à un dialogue, à une rencontre, à un investissement commun entre bouddhistes et musulmans dépasse le cadre purement théorique, et il y a des actions concrètes, et ce pèlerinage en est une illustration. Maintenant, permettez-moi de vous poser cette question, puisque vous la mettez en exergue, à juste raison, de mon point de vue, c'est la notion qui est présente dans l'enseignement à la fois du Bouddha et de Mohammed, c'est la notion de l'intention. Il n'est d'acte que par les intentions qui les sous-tendent, dit un aphorisme prophétique bien connu. Et donc, aussi bien dans un cas comme dans l'autre, l'idée de l'intention est bonne. On va mettre de côté le vieil adage qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais l'important, c'est d'agir, encore une fois, dans l'intimité de sa conscience, avec l'idée de faire le bien, et quand bien même l'action n'est pas encore parachevée, mais elle est considérée comme étant bonne, puisque l'intention qui la sous-tendait était bonne, et vice-versa, dans le cas où quelqu'un serait amené à agir par cupidité, jalousie, ou orgueil, ou que sais-je encore, et l'intention a été là peut-être pour oxyre son semblable ou lui nuire.
Vous avez entièrement raison de rappeler que la collecte des hadiths d'El Boukhari, donc ce célèbre imam né à Boukhara en 810, au 9e siècle, le chapitre 1 démarre par l'intention. Tous nos actes ne valent que par leur intention. Et en effet, comme vous l'avez souligné, la bonne intention, la volonté de bien faire, de ne pas tuer, de pratiquer l'ahimsa pour les bouddhistes, de ne pas tuer même pour s'alimenter, de ne pas voler, d'avoir une ascèse ou une éthique dans sa vie, porte les deux communautés, leur donne sens à leur vie et les rend, comme nous le disions et comme nous avons essayé d'insister, certainement heureux. Cette relation, cette répétition mystique, soufie. Alors ce sera la danse pour les derviches turner ou ce sera le dhikr pour les soufis de la Naqshbandiya par exemple, et même dans la pratique du ramadan, même presque au quotidien, beaucoup de musulmans répètent les prières de manière, répètent les litanies et sont heureux à le faire ou trouvent en tous les cas une forme de bonheur. Et en effet, guider nos pas chaque matin par la bonne intention, l'envie de bien faire, de ne pas détruire, de ne pas s'auto-détruire, d'aller vers le bien d'autrui et vers la compassion, d'essayer de prendre connaissance de la souffrance des autres et surtout de les entourer. Nous avons beaucoup insisté sur cette horrible désert et là je crois que tous les médecins étaient d'accord pour s'accorder à dire que dans ces chambres d'adolescents meurtris et parfois martyrisés par la chimiothérapie abusive, il est toujours préférable de s'entourer d'une forme de foi, d'une forme de protection divine qui soulage la mort devient plus supportable pour l'entourage aussi. Mais en effet, cette intention qui est si importante en droit et là qui est en effet prégnante dans les deux confessions, que ce soit l'islam ou que ce soit le bouddhisme, on fait une demande d'intention lorsque nous prononçons notre hajj, nous avons l'intention de faire notre prière et l'intention de recevoir notre sacrement et de répondre à ce cinquième pilier de l'islam. Et en effet, mettre nos vies dans une bonne intention, en tout au moins rechercher cette maîtrise de soi, une certaine forme de détachement de la matérialité, une certaine forme de détachement de plaisir un peu trop matérialiste pour aller vers autrui qui est commune aux deux confessions, peut satisfaire, remplir nos vies, nous apporter la joie et répondre à ce que souhaite le Dalai Lama, nous apporter le bonheur.
Alors, pardonnez-moi, Sylvie Bourgoin, de revenir sur cette notion d'intention pour vous poser une question à la fois directe et concrète. Ces médecins, quand vous évoquez l'acharnement thérapeutique et les chimiothérapies abusives, ceux et celles qui ordonnent cela sont, me semble-t-il, animés, ou du moins je fais crédit, qu'ils sont animés d'un sentiment d'humanité et ils ont à cœur d'alléger les souffrances de leurs patients. Et donc leur intention est bonne. Pensez-vous que ces chimiothérapies excessives et abusives et que cet acharnement thérapeutique n'est peut-être pas la bonne réponse à ce moment-là ou quelle serait l'intention ou quelle est l'explication à donner ou vous ont-ils entendu si vous aviez eu à leur parler ?
Et là, vous m'offrez une belle opportunité de remercier un médecin du Rotary Club de Camembert qui s'est associé donc
en Normandie.
En Normandie, tout à fait, qui s'est associé cette année au pèlerinage d'Anoia que nous avons accompli au mois de juillet. Pour conforter nos vues et nous sommes accordés à dire que la foi, sous quelque forme qu'elle soit, aide aussi les médecins et qu'il est préférable qu'il y ait toujours dans ces chambres d'adolescents un aumônier musulman ou un moine bouddhiste ou une sœur qui puisse passer et écouter les doléances, les prières, les intentions et les volontés de ces adolescents. Mais en effet, le fait de se lier à Dieu, le fait de chercher Dieu peut être une forme de remède. Lorsque le Coran, dans ses ayats, nous l'avons dit, nous prouve, nous apporte une forme miraculeuse, nous donne un signe, vous l'avez très justement dit bien, il nous tend la main. Mohammed nous tend la main dans notre quotidien. Il a accompli des miracles, il a soulagé des peines, il a entendu l'ange Gabriel nous apporter la révélation coranique. En nous apportant la révélation coranique, dans ses ayats, il nous fait signe. Il nous tend une main, il nous soulage, il nous prévient de l'heure, de la fin du monde. Il nous accompagne et cette aide est la plus belle qui existe. Il ne faut jamais oublier que l'on peut se sentir protégé, même ordonné dans le sens d'une ordonnance médicale par la foi. Dieu peut nous accompagner, continuer à nous guérir, à guérir notre âme, à porter notre morale, à soutenir notre effort et à maintenir notre santé.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons de rencontres, au singulier ou au pluriel, en tout cas de dialogue et d'un engagement commun entre bouddhistes et musulmans en vue d'alléger les souffrances d'autrui et d'œuvrer ensemble pour un monde meilleur, au-delà des mots, et même pour cette émission qui, en tout cas en ce qui me concerne, ne se veut pas dans une présentation homélitique, mais simplement de trouver les voies, VOIE, VOX, pour un engagement commun de ceux qui sont fidèles à la tradition de Bouddha et celle de Mohammed. Pour cette dernière partie, chère Sylvie Bourgoin, vous qui êtes présidente de l'association Jean-Paul Arrivel, le peintre qui nous a quittés en 2002, déjà un peintre de talent, vous pourrez toujours nous en parler, et vous êtes aussi fondatrice du pèlerinage d'Anoya qui vient en aide à ces malades atteints de cancer et a fortiori ces jeunes gens, ces jeunes demoiselles qui finalement agonisent et parfois dans des souffrances indicibles. Pour cette troisième partie, il y a pour les deux traditions, qui ne sont d'ailleurs pas exclusives d'autres traditions religieuses, lorsque nous parlions d'intention tout à l'heure, nous trouvons cela dans le monothéisme abrahamique judéo-islamo-chrétien, dans le judaïsme, dans le christianisme. Et donc, pour cette partie, je voulais vous parler de la justesse du comportement, d'une éthique du travail bien accompli, être au service d'eux, et au-delà du service de l'humanité, et cette rectitude morale, et puis le respect même du rituel, ce sont deux approches qui sont omniprésentes dans le bouddhisme et dans l'islam.
Le noble octuple chemin, la voie du Bouddha, nous enseigne la justesse. Alors, vous avez souligné une notion très importante et qui est commune à l'islam et au bouddhisme, c'est l'effort juste, le travail juste, de gagner de l'argent, de gagner sa vie, pour parler trivialement, de manière juste. Et on le retrouve dans les hadiths de l'imam El-Bukhari, on le retrouve dans le Coran, et on le retrouve toujours dans les huit préceptes du bouddhisme, avec donc la parole juste, ne pas parler à tort et à travers, ne pas mentir, ne pas médire, la concentration juste, la conscience juste, la vision juste, etc. Mais en effet, il me semble, là je vous rejoins tout à fait, que dans nos vies où la corruption, les déviances, les tentations peut-être un peu faciles, factices et surtout très erronées du jeu, du jeu d'argent, nous mène en erreur, et que lorsque dans les 11 préceptes de la tariqa de Naqshbandiya, donc à côté de Bukhara en Ouzbékistan, nous enseigne à gagner de l'argent, gagner notre vie à la sueur de notre front, même si l'adage peut paraître médiéval et obsolète, eh bien, il faut s'y confronter. C'est aussi la voix du Bouddha qui reconnaît et qui recommande un effort juste. Mais à vous écouter, nous avons, en tous les cas, en ce qui me concerne, vraiment très très humblement, j'ai appris au contact des musulmans et j'ai appris au contact des bouddhistes à apprécier, à pratiquer après l'hospitalité, par exemple, qui est commune et qui est une bonne intention, d'offrir la possibilité de recevoir l'autre dans tout les sens du terme. J'ai appris le détachement dont je parlais tout à l'heure, vers un éloignement de trop d'avidité au contact et de l'islam et du bouddhisme. Mais surtout, je crois que les deux prophéties m'ont enseigné la générosité du cœur et le dévouement. Comment ces deux prophéties m'ont aidé dans la vie, m'ont soutenu, m'ont ouvert les bras, m'ont ouvert leur maison, m'ont accueilli. Et je suis toujours restée dans leur pratique comme dans un écrin, comme dans un cocon. J'ai reconstitué une famille. Et je crois qu'il n'y a pas sur la terre plus grand bien et plus grand bonheur.
Et si nous ajoutons à tout ce que vous dites, Sylvie Bourgoin, là, l'idée que, me semble-t-il, aussi bien l'une que l'autre des deux traditions, celle du bouddhisme et celle de l'islam, face au terme de la vie, on va appeler les choses comme ça d'une manière euphémistique, face à la mort, ou au trépas, ou au passage, simplement pour l'une, il n'y a pas un au-delà annoncé comme meilleur et durable, et pour l'autre, c'est quand même la vie n'est qu'une grande Pâque, une traversée, un passage, et même elle est préparatoire en quelque sorte à un au-delà. Comment se fait-il que, en dehors de ces approches philosophico-théologiques, il y a cette sérénité face au terme de la vie?
Eh bien, encore une fois, je ne pense pas qu'il faille agir par dichotomie, par cassure, par brisure. Par exemple, lorsque l'on pense, pour revenir à Édouard Rist, à ces jeunes gens à qui on fait passer un baccalauréat de français au sortir d'une cure de chimiothérapie. Est-ce que nous n'aurions pas intérêt à les mettre dans un sanatorium, par exemple, en altitude auprès d'un lac en air pur, et à ne pas assommer peut-être l'esprit avec le carré sémiotique, par exemple, ou des difficultés de grammaire qui sont peut-être lourdes et que le repos en sanatorium pourrait peut-être prolonger la vie. Ce sont des interrogations. Mais pour les fins de vie, lorsque nous parlons là de la mort, en effet, il n'y a pas non plus de contradiction, même si les deux vues sont différentes. Mohammed, dans l'islam, propose un paradis très dessiné. C'est un jardin, le jardin du paradis, nous en avons des représentations, et la quête du paradis est extrêmement sémantiquement défini. Alors que dans le bouddhisme, c'est beaucoup plus flou. En effet, vous avez parlé de passage, de transmutation d'une entité dans un corps potentiel. Nous avons parlé du nirvana. Le nirvana étant une forme aboutie, qui n'est pas intrinsèque, mais qui est existante au moins du paradis. Mais qu'est-ce qui empêche une forme plutôt qu'une autre? C'est ce dont nous avons parlé tout au long de cette émission. Pourquoi travailler en rupture, en brisure, en séparation, plutôt que de travailler en courbe, en cercle concentrique, en onde, comme nous venons de parler là des bienfaits peut-être d'un lac ou de l'air pur pour ces jeunes cancéreux, eh bien essayer de communier ensemble, essayer de cheminer ensemble plutôt que de se briser, de s'éloigner ou de montrer des formes comme le carré un peu trop droite et nous conduire à des calvaires qui sont à fuir.
Oui, d'autant plus qu'il n'y a aucune raison de s'arc-bouter et parfois dans un fanatisme ou dans une ardeur chauvine à sa vision des choses. Sur quelques idées et une vision de ce qu'on ne connaît pas, si ce n'est que par spéculation au sens premier du terme, une sorte de projection à essayer de voir au loin, alors que personne n'est revenu pour nous dire ce qui se passait de l'autre côté, qu'il y ait une transmutation ou transmigration ou transformation dans un cas où qu'il y ait un accueil pour les bienheureux dans des délices paradisiaques ou pour les malheureux, pour rester dans cette approche métaphorique, en train de subir les tourments du feu, ça reste en tout cas quelque chose qui est qu'on n'expérimente pas. Si je devais revenir à un point du tétrapharmakos d'Épicure, à propos de la mort, il dit « il n'y a aucune raison de s'en préoccuper parce que tant qu'on est là, elle n'est pas là, et une fois qu'elle est là, nous ne sommes plus là ». Donc, raison de plus pour aborder ce point avec beaucoup de calme et de sérénité.
Tout à fait.
Alors, nous approchons du terme de l'émission, chère Sylvie Bourgois. Ça, nous avons parlé jusque-là de ce qui est en commun entre les deux traditions religieuses, être au service d'eux, le travail juste, l'effort juste, l'octuple chemin, dans le bouddhisme, et puis l'enseignement prophétique, etc. Vous avez évoqué dans votre livre que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, le feu et l'eau qui sont deux signes prophétiques pour l'une et l'autre des deux traditions religieuses. Alors, en quoi le feu et l'eau sont des signes prophétiques?
Eh bien, nous le savons, par exemple, le feu, nous parlons toujours du feu sacré, nous parlons du feu de Zoroastre, par exemple, qui est une forme de divinité sacrée. Eh bien, les deux traditions, que ce soit donc la tradition musulmane ou la tradition bouddhiste, voient dans ces deux éléments, le feu et l'eau, deux manières d'incarner la foi, de se manifester sous forme de signes, sous forme de, comment dit-on, de présence. Et les deux vénèrent ces éléments naturels presque comme des divinités.
Bien, merci infiniment. Merci Sylvie Bourgoin d'être venue nous parler et nous indiquer, appeler à cette rencontre entre bouddhistes et musulmans pour un nouveau sangha, pour une nouvelle paroisse commune, pour cette communauté de destin. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam et vous retrouverez l'émission comme toutes celles de la chaîne sur le site de France Culture. Et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son était assurée aujourd'hui par Manon Houssin. Et la réalisation est assurée par l'ami François Connac.